Impossible n'est pas français. La mission confiée à Sébastien Lecornu par Emmanuel Macron ressemblait à une mission impossible. Et finalement, le Premier ministre démissionnaire écarte l'hypothèse d'une dissolution dans l'immédiat et annonce un nouveau Premier ministre sous 48 heures. Analyse et réaction notamment des deux députés calédoniens dans ce journal. L'ADEC tire la sonnette d'alarme concernant ses finances. L'enseignement catholique avait appelé à la mobilisation devant le Congrès ce matin. Une délégation a été reçue par les représentants de l'institution. Les élus du Congrès qui sont réunis d'ailleurs en séance publique ce matin, deux textes à l'ordre du jour. La réhabilitation de l'OSEF à Bouraille et le prêt garanti par l'État figurent à l'ordre du jour. Le football avec la Nouvelle-Calédonie qui s'offre une première victoire sur le continent européen. Les Cagous ont battu Gibraltar ce matin en match amical 2-0. Le sport qui fait bouger les lignes, c'est en tout cas la conviction de la Fondation Roger Cadour qui organise une conférence ce soir au CTC. Antoine Comboiré, invité d'honneur de l'événement, était notre invité ce matin. Vous l'entendrez dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité, un coup d'œil au jeudi de l'économie Radio Rythme Bleu. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Et cette semaine, vous mettez un coup de projecteur sur des entreprises qui prennent des initiatives et ce malgré ce contexte économique morose.
Effectivement, nous parlerons ce midi dans le jeudi de l'économie des entreprises qui prennent des initiatives et qui investissent. Nous aurons deux invités, Mathieu Odaimi, qui a lancé la construction d'une usine de fabrication de chips en Nouvelle-Calédonie. Et puis Martin Fessard, le directeur général de Total Energy, qui évoquera, lui, les innovations mises en œuvre par sa société et par son groupe. Deux sociétés très différentes, deux initiatives très différentes donc, mais dans les deux cas, il s'agit d'investir alors que la Calédonie va mal. Ils nous parleront de leurs projets et de leurs motivations. On se retrouve avec nos invités à midi, juste après votre journal.
Journal qui a pour une l'actualité politique nationale. Sébastien Lecornu écarte donc l'hypothèse d'une dissolution et annonce un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures. On ne sait rien du profil du futur locataire de Matignon qui devrait être nommé d'ici vendredi soir, heure de Paris. Une information qui a été confirmée par l'Élysée peu après l'intervention de Sébastien Lecornu sur France 2, Elisabeth.
Un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures, l'Élysée a confirmé l'information donnée dans un premier temps, vous le disiez, par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre démissionnaire s'exprimait dans le 20h de France 2 après deux jours d'ultimes négociations.
Je sens qu'un chemin est possible encore, il est difficile, et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que je pense que la situation permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures.
Un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures, une annonce qui a très vite été confirmée par l'Élysée. Sébastien Lecornu a quant à lui expliqué comment il en est arrivé à cette conclusion. Il y a un refus majoritaire d'une dissolution.
On a une assemblée qui est évidemment fragmentée avec des possibilités de compromis. Au fond, ce soir, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. Et pas que parce qu'il y aurait la peur de retourner aux urnes, peut-être vrai chez certains, mais c'est surtout parce que beaucoup de personnalités politiques, connaissant leur terrain, leur circonscription, voient bien au fond qu'une dissolution amènerait au même résultat et à une fuite en avant vers un blocage qui pourrait être davantage définitif. Et de cette majorité absolue qui refuse la dissolution, au fond, on a après plusieurs sous-blocs. On a une majorité très relative de plusieurs formations politiques qui, au fond, sont prêts à s'accorder sur un budget commun, des formations politiques de l'opposition, notamment de gauche, qui au fond veulent aussi cette stabilité, veulent un budget pour la France et pour la sécurité sociale avant la fin de l'année, mais ils mettent des conditions.
Le Premier ministre démissionnaire a bien sûr été interrogé sur la possibilité qu'il soit lui-même reconduit à Matignon, mais Sébastien Lecornu en a écarté l'hypothèse.
Moi j'ai présenté ma démission lundi matin. Je pense donc démontrer que je ne cours pas après le job dans la mesure où j'ai démissionné. J'ai accepté de faire 48 heures dans des conditions qui ne sont pas que faciles. J'ai un côté moins de soldats, donc j'ai accepté évidemment la mission que le président m'a demandée. Ce soir, je considère que ma mission est terminée.
J'ai un côté moins de soldats, déclare Sébastien Lecornu, qui considère que sa mission est terminée, même s'il n'a pas totalement exclu de se succéder à lui-même. Et si un certain nombre d'observateurs pensent qu'il pourrait être renommé à Matignon. Un discours dans lequel le Premier ministre démissionnaire semble reconnaître à demi-mot les limites de la composition de son bref gouvernement. « J'ai désormais l'intime conviction, dit-il, que l'équipe qui devra prendre les responsabilités dans les temps à venir, quelle qu'elle soit, quel que soit le choix du président de la République, devrait être une équipe qui est complètement déconnectée des ambitions présidentielles pour 2027. » Et il a pris soin de préciser que lui n'était pas candidat à l'Élysée. Sébastien Lecornu qui est aussi revenu sur les urgences et parmi elles, la Nouvelle-Calédonie.
C'est l'objet de mes consultations pendant 48 heures. J'ai dit à chacune des forces politiques que je voyais deux urgences, trois, un budget pour l'État, un budget pour la sécurité sociale, et pardonnez-moi, pour moi, à titre personnel, ce n'est pas anecdotique, les textes sur la Nouvelle-Calédonie, puisqu'à 18 000 km d'ici, nous avons une situation institutionnelle qui ne peut pas attendre. Et ça, c'est ce que j'ai dit à chacune des formations politiques que j'ai reçues pendant 48 heures, et toutes m'ont dit qu'on ne pouvait pas prendre le risque d'avoir, enfin toutes celles qui sont venues me voir, pour être précis, donc hors LFI et Rassemblement National, pardonnez-moi, toutes m'ont dit qu'il ne fallait pas prendre le risque de ne pas avoir de budget au 31 décembre, parce que les conséquences pour la France et les Français mais seraient absolument dramatiques.
Un projet de budget pour 2026 pourrait être présenté en Conseil des ministres lundi, date butoir pour qu'il soit adopté d'ici la fin de l'année par le Parlement, mais il ne sera pas parfait, prévient le Premier ministre démissionnaire. C'est un budget dans lequel il y a beaucoup à débattre, parce que c'est un budget qui avait été plutôt imaginé pour que le débat ait lieu. Sébastien Lecornu n'a pas éclairci les avancées qui lui permettent de dire qu'un compromis est possible, alors que les partis ont multiplié ces derniers jours les lignes rouges contradictoires, mais il précise qu'il faudra trouver un chemin pour que le débat ait lieu sur la réforme des retraites.
Une suspension de la réforme des retraites qui coûterait aux finances publiques pas moins de 3 milliards d'euros en fonction du périmètre en 2027, déclare Sébastien Lecornu. Et cette déclaration du Premier ministre démissionnaire a suscité, Elisabeth Noir, de nombreuses réactions.
Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, parle de longs bavardages de Sébastien Lecornu au JT, qui illustre à lui seul, dit-il, l'impasse des discussions de couloir. Marine Le Pen avait quant à elle déclaré, avant l'intervention du Premier ministre démissionnaire, qu'elle censurerait tous les gouvernements jusqu'à obtenir la dissolution, parce que, disait-elle, la plaisanterie a assez duré. Le Parti socialiste et les écologistes continuent quant à eux de réclamer la nomination d'un Premier ministre de gauche, tandis que la France insoumise plaide toujours pour la destitution du chef de l'État. Après des années de déni macroniste, Sébastien Lecornu a reconnu que la gauche avait raison. Il faut désormais en tirer les conséquences et laisser la gauche gouverner. C'est ce que déclare sur X le président des députés socialistes, Boris Vallaud. Si les macronistes ne veulent pas la dissolution, je n'ai qu'une seule solution pour eux, c'est la cohabitation avec un gouvernement de gauche et écologiste. A pour sa part réagi la patronne des écologistes, Marine Tondelier. Mais pour Mathilde Panot, la présidente des députés insoumis à l'Assemblée nationale, le comique de répétition a assez duré. Pour elle, il ne reste ce soir qu'une seule solution, la démission et le départ d'Emmanuel Macron. Le président ne peut plus se tromper, a de son côté averti l'ancien président de la République, François Hollande. Pour lui, il faut un Premier ministre qui ne soit pas du bloc central, car un Premier ministre qui viendra du camp présidentiel sera le moins armé pour obtenir un budget adopté dans des conditions honorables. Et puis réaction également des deux députés calédoniens, Nicolas Mesdorff et Emmanuel Tchibaou, qui ont suivi bien sûr l'entretien du Premier ministre démissionnaire. Nous l'avons entendu, Sébastien Lecornu a évoqué brièvement la Nouvelle-Calédonie en rappelant qu'elle faisait partie des trois urgences avec le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale, des propos qui ont rassuré le député de la première circonscription.
La France traverse une crise politique sans précédent et Sébastien Lecornu arrive à parler de la Nouvelle-Calédonie. Il ne parle d'aucun autre territoire, ni de l'Hexagone, ni des Outre-mer. La Nouvelle-Calédonie est mise au même plan dans les urgences que le budget de la nation. Donc c'est quand même à souligner. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas dit beaucoup de mots. Mais il a dit des choses importantes. Il a dit que les textes étaient urgents. Mais quels sont ces textes ? Le premier, c'est le décalage des élections provinciales. C'est-à-dire que Sébastien Lecornu pense qu'il faut décaler rapidement les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi faire ? Pour voter le deuxième texte, qui est la modification de la Constitution pour entériner l'accord de Bougival. Donc Sébastien Lecornu, en peu de phrases, a tout dit. Il a dit qu'il faut décaler les élections provinciales pour entériner l'accord de Bougival. C'est ça qu'il a dit ce soir, Sébastien Lecornu. Et donc, pour moi, je suis très satisfait de son intervention, parce que, un, il parle de la Nouvelle-Calédonie, et deux, il confirme qu'il faut aller au bout de l'accord qu'on a trouvé. Donc, j'ai trouvé que son intervention était excellente, comme toujours.
Le député indépendantiste Emmanuel Tchibaou a lui aussi relevé l'allusion de Sébastien Lecornu au projet de loi organique reportant les provinciales à juin 2026. Emmanuel Tchibaou qui réaffirme la position du nouveau FLNKS. Bougival est un projet d'accord qui n'a pas obtenu le consensus et en conséquence il est opposé au report des provinciales.
La proposition du projet de loi organique, pourquoi elle est amenée aujourd'hui ? C'est parce qu'on s'inscrit dans le calendrier de Bougival, du projet d'accord de Bougival. Aujourd'hui, le projet il est contesté. On ne peut pas dire qu'il fait consensus au pays.
Par un parti sur sept.
Voilà. Et à la différence de ce qui a été la proposition qui a été amenée à Deva, on a toujours privilégié le consensus. Aujourd'hui, on choisit la question démocratique en faisant valoir un parti sur sept. Je dis que ce n'est pas comme ça que les accords précédents ils ont été signés. Si on doit avoir un débat apaisé, il faut donner, reconforter la légitimité de ceux qui posent les enjeux qui sont éminemment politiques. Quand on parle de la question des provinciales, c'est de fait la déclinaison politique de la manière dont notre pays il est organisé et géré, puisque en découle la majorité au Congrès et de fait le gouvernement qui en émane.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous soulagé que Sébastien Lecornu ait fait de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie l'une des priorités nationales en proposant au socle commun de concentrer les négociations sur le budget de la France et la Nouvelle-Calédonie? Si vous êtes soulagé, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à notre question d'hier. Nous vous demandions quelle est selon vous la solution pour sortir de la crise politique sans précédent que connaît la France. 48% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent partisans d'une démission du président de la République. Ils sont 38% à préférer la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et ils sont enfin 14% à se dire partisans d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. En attendant, il est 11h, passé de 42 minutes. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal et on va voir ensuite toute l'actualité en Nouvelle-Calédonie et direction notamment le boulevard Vauban pour la séance du Congrès.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Hyper U Païta fête son premier anniversaire et sort le grand jeu pour vous gâter. Du 1er au 11 octobre prochain, participez au grand jeu anniversaire et tentez de repartir avec l'un des 10 pick-up Power King Kong à gagner. Remplissez votre bulletin de jeu et déposez-le dans l'urne prévue à cet effet. Tirage sort le samedi 11 octobre à 16h, remise des clés le dimanche 12 octobre. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement déposé chez Maître Citrita, huissier de justice à Nouméa.
U, commerçant, autrement.
Attention Païta, préparez vos chapeaux et vos fourchettes. Dimanche 12 octobre, c'est la 27e fête du bœuf. Rodéo, dégustation, jeux équestres et surtout le grand concours de barbecue avec 20 équipes en feu. Venez vivre une journée 100% western, 100% locale. C'est gratuit, c'est convivial, c'est à Païta. Dès 8h30 du matin, toutes les infos sur païta.nc.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité sur le territoire et les élus du Congrès qui sont réunis ce matin en session extraordinaire. On retrouve sur place Lionel Sabot. Bonjour Lionel.
Bonjour Nicolas.
Alors deux textes figurent donc à l'ordre du jour.
Oui, effectivement, une séance qui vient de s'achever à l'instant même, à l'instant où vous me passiez à l'antenne. Deux textes qui étaient effectivement à l'ordre du jour. Le premier qui a été examiné par les élus était un projet de délibération qui approuvait la convention conclue entre l'État et la Nouvelle-Calédonie relative à l'attribution d'une subvention dans le cadre de la réhabilitation et d'extension d'entrepôts de stockage et de distribution de viande de l'OSEF. Un premier texte qui a été adopté à l'unanimité des élus en moins de 10 minutes de travail. Et puis les élus ont examiné également, et c'était un peu la priorité de cette séance, les élus ont également examiné le projet de délibération approuvant la convention conclue entre l'État et la Nouvelle-Calédonie relative à l'attribution, vous le savez, de la deuxième tranche du prêt garanti par l'État, une deuxième tranche de 240 millions de francs qui a été adoptée donc il y a quelques instants. Sur ces 240 millions de francs, 219 millions reviendront à la Nouvelle-Calédonie et puis 21 millions iront pour la dotation notamment des communes de Calédonie. Cette deuxième tranche sera versée en deux temps par l'État et sous condition de nouveau. Notez qu'on a appris au cours de cette séance que, bien évidemment, cette deuxième tranche était essentielle, car sinon, et c'est ce que disait le membre du gouvernement Thierry Santa, les conséquences seraient désastreuses pour les collectivités. En effet, Thierry Santa a annoncé que les pertes fiscales de la Calédonie pour l'année 2025 était de 40 milliards envisagés lors du vote du budget primitif sera finalement plutôt aux alentours de 55 milliards de francs pacifiques. C'est-à-dire si cette deuxième tranche du prêt garanti par l'État était donc essentielle pour la Nouvelle-Calédonie. Le texte a été voté, je vous le disais, il y a quelques instants par les élus. En direct du boulevard Vauban, Lionel Sabot, RRB.
Merci Lionel. Alors le début de cette séance a été retardé de quelques dizaines de minutes en raison d'une mobilisation boulevard Vauban. 350 manifestants étaient rassemblés devant le Congrès, répondant à l'appel de la DEC, qui tient à alerter sur l'état des finances de l'enseignement catholique. À fin novembre, sa trésorerie sera épuisée. Une délégation a donc été reçue par le bureau du Congrès. Et à la sortie, Manuel Van Aerschot, le directeur de la DEC, a fait le point devant les personnes manifestant.
Le plus important, tous autour de la table, les élus ont assuré, parce que quelqu'un d'entre nous a posé la question, si c'est la disparition de la DEC que vous désirez, il faut le dire maintenant. Et il faut le dire à tout le monde. Donc la réponse a été claire de plusieurs groupes politiques différents qui se sont exprimés et de la bouche du président de deux commissions d'enseignement et permanent ainsi que de la bouche de madame la présidente du Congrès. Non. Donc ils n'ont ni les moyens humains, ni mobilier d'accueillir les 12 116 élèves que nous scolarisons. Donc la réponse est claire. Il faut que la DEC, les autres enseignements, privés, continue. Donc ça, je l'ai entendu.
Et la DEC fera un point face à la presse sur cette réunion de ce matin à 16h cet après-midi. Mais on sait déjà que des réunions auront lieu la semaine prochaine, notamment au gouvernement, avec Isabelle Chamorro. Dans le reste de l'actualité sur le territoire, Tahiti à l'honneur aujourd'hui et demain sur la place des Cocotiers dans le cadre des Jeudis du Centre-Ville. L'événement se déroulera exceptionnellement sur deux jours autour de la culture mais aussi des bons produits de Polynésie française, de quoi ravir évidemment les visiteurs et les exposants.
C'est magnifique depuis ce matin. Les exposants sont heureux et on attend encore plus puisque c'est l'heure de manger. Vous avez du poé, vous avez de la salade thaïsienne, de la salade chinoise. Il y a différents poés. Il y a poé banane, poé potiron, poé tomate. Il y a différentes variétés. Et il y a beaucoup de plats avec le cochon fait chez nous dans le hima que l'on appelle dans le four thaïsien qu'ils ont apporté là. Ça vient juste d'arriver il y a une heure. Venez goûter nos spécialités thaïsiennes.
Comme c'est les Jeudis de Tahiti, de tout ce qui concerne la Polynésie. Donc fafarou, mitioué, poisson cru, voilà, tout ce que vous voulez, du poé. Donc c'est aujourd'hui et demain, il faut en profiter.
De découvrir une autre culture, de faire partager ça aux Calédoniens, je trouve ça génial. Et puis ça met un peu de vie aussi au niveau du centre-ville et franchement, je trouve ça génial. Et puis découvrir aussi, pourquoi pas, des bijoux, j'ai déjà acheté une robe.
Et la communauté polynésienne vous attend donc de 9h à 19h aujourd'hui et demain sur la place des Cocotiers à Nouméa.
À Radio Rythme Bleu, 11h48.
L'actualité dans la région à présent, direction l'Australie, avant de refermer cette page où la police fédérale a annoncé la création d'un service d'enquête qui va cibler en priorité les groupes susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale. Cette unité est intégrée au commandement de la lutte contre le terrorisme et c'est ce midi la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ce service est dirigé par la commissaire Chrissy Barrett, laquelle a déclaré que, je la cite, « des groupes actuels et émergents érodent le tissu social de notre pays en prenant la haine, la peur et l'humiliation. Certains de ces groupes, a-t-elle poursuivi, se sont déjà livrés à des actes de vandalisme, à des destructions de biens et à des attaques contre des entreprises en raison de leur origine ethnique ou de leur religion. » Si nombre de ces crimes ne relèvent pas du terrorisme, a-t-elle indiqué, la police fédérale a identifié des comportements préoccupants. Ces comportements, a averti la commissaire, sont susceptibles de dégénérer en violence à motivation politique ou en crimes haineux, mettant gravement en danger la communauté australienne. La police fédérale a adressé une mise en garde aux groupes concernés, a-t-elle insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h passé de 50 minutes. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant la suite de cette édition et on va s'intéresser à la fête de la science avec nos invités juste après la pub.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
En
Envie d'évasion ? Le Vanuatu vous appelle. Retrouvez toutes nos meilleures offres sur www.vanuatu.travel. Dès 49 900 francs par personne, envolez-vous vers Port Vila. Vol aller-retour, deux nuits d'hôtel, transfert et petit déjeuner inclus. Le Vanuatu, c'est bien plus qu'un voyage. C'est une expérience inoubliable. Plus d'infos en agence de voyage ou sur www.vanuatu.travel.
Salut, c'est Marion. Je vous donne deux rendez-vous chaque week-end sur RRB. Le hit pacifique et le hit international. Pour tout connaître des nouveautés musicales.
Le hit pacifique.
Pour le hit pacifique, rendez-vous le samedi à 9h et le dimanche à 14h30.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on s'intéresse dans ce journal à la fête de la science qui a donc débuté le 3 octobre dernier et qui se termine lundi. Le thème cette année, intelligence avec un S. Et pour en parler, nous sommes notamment avec Florent Olivier du Crécica. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour aux auditeurs.
Et avec Colin de la Higuera qui est ambassadeur de cette fête de la science, professeur à Nantes Université et titulaire de la chaire UNESCO sur l'intelligence artificielle et la pédagogie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Peut-être, Florent-Olivier, commencer par rappeler ce thème, intelligence, avec un S entre parenthèses. Donc, on est sur toutes les formes d'intelligence.
Oui, justement, sur la diversité. Donc, ça inclut à la fois des intelligences rationnelles telles qu'on les imagine immédiatement, mais également des intelligences artificielles, Colin en parlera ultérieurement. Hier soir, on avait un échange sur les intelligences extraterrestres avec des collègues. On va travailler dimanche au parc forestier. On vous y invite tous pour voir le corbeau calédonien, qui est une espèce endémique, qui est réputée pour être le plus intelligent du monde. Donc, venez vous confronter à l'intelligence du corbeau, mais également des intelligences émotionnelles. Il y a un certain nombre d'expositions qui font cela. Et si vous voulez juste vous amuser, il y aura également une pièce de théâtre et un certain nombre de jeux autour des sciences à la FOL ce samedi, grâce à Fête des Sciences.
Donc quand on regarde le programme de la Fête des Sciences, on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent partout sur le territoire. On peut vraiment trouver un événement à proximité de chez soi et dans des horaires dans lesquels on est disponible, quoi.
Oui, alors il y a un petit bémol, c'est les îles, puisque l'événement était prévu ce vendredi, donc il est décalé au 31 octobre prochain.
D'accord.
Donc j'invite tous les habitants des îles Loyauté à venir nous rejoindre au Collège Avila le 31 octobre. Par contre, au nord, il y a eu un certain nombre d'événements et il y en a encore ces prochains jours, puisque l'Institut Pasteur fait la tournée des collèges avec une maquette sur la leptospirose et Colin de la Higuera lui-même retourne dès cet après-midi, enfin dès demain, à tout haut et pour pouvoir rencontrer des étudiants, et enfin des élèves et des enseignants.
Alors justement, vous faites un peu le tour de la Nouvelle-Calédonie pour parler de l'intelligence artificielle. Vous êtes l'ambassadeur, c'est votre rôle finalement d'aller à la rencontre des jeunes publics, peut-être pour susciter des vocations, pour éveiller sur cette question de l'intelligence artificielle ?
Pour éveiller en premier lieu, mon sujet c'est l'IA, l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine de l'éducation. D'ailleurs, l'IA a des retombées en médecine, l'IA a des retombées dans l'économie, a énormément de retombées, mais il y en a une qui m'intéresse, qui est celle de l'éducation. Est-ce qu'on apprend de la même manière aujourd'hui avec l'IA ? On a tous des enfants, des adolescents chez nous qui l'utilisent. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est plus compliqué ou moins compliqué pour les enseignants ? Donc, cette question, je l'aborde avec des ateliers où je discute avec les jeunes. Je pose la question, finalement, c'est mieux l'IA pour apprendre ou ça te pose des problèmes ? Et puis, je discute avec les enseignants. C'est à peu près la même question. Les réponses ne sont pas les mêmes.
Est-ce que vous voyez les mêmes choses ici qu'en métropole ? Est-ce qu'on a le même rapport à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies, dans les enseignements ou tout simplement à la maison ?
J'étais surpris. Je m'attendais à beaucoup plus de difficultés. On m'avait prévenu que Internet ne marchait pas toujours, que c'était plus cher de l'utiliser. Et en réalité, je vois que ils l'utilisent, les élèves l'utilisent beaucoup. probablement trop d'ailleurs, mais ils l'utilisent beaucoup. Certains se posent les bonnes questions, c'est-à-dire celle de se dire, est-ce que je l'utilise pour m'aider à apprendre, ou est-ce que je suis en train de l'utiliser pour apprendre à ma place, d'accord? C'est ça la question clé. Donc ça, c'est une question qui est abordée en métropole, un peu comme elle est abordée ici. Les réponses peuvent être différentes, les quantités de population dans chaque cas peuvent être un petit peu différentes, mais globalement, je n'ai pas de surprise. Je vois des élèves qui, effectivement, l'utilisent, par exemple, typiquement, pour gagner du temps, ce qui est quand même un petit peu suspect, quoi. Quand on apprend, gagner du temps, c'est un peu étonnant. Et quand je demande, mais pour gagner du temps, pour faire quoi? Pour regarder TikTok. Bon, là, ça, c'est moins amusant, c'est moins une bonne idée. Alors, ce n'est pas toujours le cas, d'accord? Certains l'utilisent vraiment, utilisent cet outil formidable, parce que c'est un outil formidable, en tant qu'outil, pour aller découvrir, pour aller interroger, pour remplacer peut-être le prof particulier qu'ils n'ont pas, et pour finalement apprendre mieux.
Et ils sont familiarisés à ces outils, ils savent s'en servir, ils sont à l'aise?
Alors, ils sont familiarisés, ils sont à l'aise, ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent bien. Alors, ça veut dire que justement, cette barrière entre l'utiliser pour apprendre mieux et puis l'utiliser pour apprendre à ma place, celle-là, elle est difficile à découvrir sans être accompagnée. Mmh. Et donc là, il y a un manque d'accompagnement, je vous rassure, on a le même ailleurs, c'est difficile. Les adultes, on n'est pas si bons non plus que ça pour le faire. On sait aussi très vite glisser dans « tiens, je laisse l'IA tout faire à ma place ». Et pourtant, les enseignants doivent arriver à accompagner les élèves dans cette réalisation que un peu, c'est bien, et trop, c'est trop.
Et l'IA pourrait redessiner l'école de demain. L'école, elle va changer. On a parlé des classes numériques, etc. On a l'impression que tout va très vite et qu'on part vers l'IA pour aider à enseigner, à apprendre.
Donc, ça va très vite. Le constat est que ça va très vite. On rappelle que ChatGPT, pour ne pas le nommer, est arrivé il y a moins de 3 ans. Et très vite, c'est rentré, non pas parce qu'on a décidé de le faire rentrer, mais parce que les élèves s'en sont servis. D'ailleurs, c'est arrivé par, finalement, les usages. Donc, les usages sont arrivés. Eh bien, il a bien fallu que notre système éducatif, que nos enseignants s'en emparent. Donc, ça va très vite et c'est déjà, effectivement, en train de changer la donne. Pour certains enseignants, ça le change de façon assez négative, c'est-à-dire ils arrivent à être complètement déprimés en ayant l'impression qu'ils ne savent absolument pas gérer cette situation. Pour d'autres, au contraire, ce sont de nouvelles opportunités pédagogiques. Et ce qui est important, c'est de voir comment on partage au mieux les bonnes idées de certains enseignants qui marchent, qui fonctionnent, qui permettent de redynamiser, que de redonner envie d'apprendre d'ailleurs, plutôt que finalement de laisser les gens se déprimer en train de dire « je n'y arrive pas, de toute façon ça ne sert à rien, les élèves ne veulent pas apprendre, ils préfèrent utiliser l'IA ». Donc c'est ça l'enjeu, c'est de réussir à redynamiser un maximum d'enseignants pour que tout se passe bien.
Est-ce que ça peut répondre à des enjeux locaux? On parlait tout à l'heure peut-être du fait qu'on ne puisse pas forcément avoir accès à un prof particulier. Peut-être vous êtes allé en brousse aussi. Est-ce que ça peut répondre à des enjeux locaux que vous auriez identifiés et déjà vus?
Donc, je vais plutôt aller du côté en brousse où je vais y aller aujourd'hui. Je vais aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Mais néanmoins, la réponse est oui. Des gens isolés, des gens allophones, donc des gens qui finalement s'éduquent dans une autre langue que leur langue maternelle, on sait que ça peut aider. D'accord, on sait que quelque part, quand ça va un petit peu trop vite en classe, on peut redemander à l'IA de nous réexpliquer des choses. Mmh. Et finalement, on peut redemander plusieurs fois. Donc on n'est plus sur la même échelle de temps. On peut prendre notre temps à le faire. Encore faut-il avoir envie de le faire, encore faut-il y avoir accès. Donc il y a quand même des enjeux d'avoir accès à ces outils. Mais ça offre des opportunités, oui, qui pourraient être spécifiques ici.
Et vous, vous avez aussi, dans votre conférence que vous allez donner lundi, un point sur le cadre éthique qu'il faudrait mettre en place concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe, notamment, ou dans les enseignements?
Donc oui, il faut bien comprendre que les enjeux éthiques sont énormes. Il y a des enjeux de biais, et d'ailleurs la question des biais pourrait se poser de façon différente ici en Nouvelle-Calédonie par rapport à comment elle se pose dans l'Hexagone. Mais il y a une question éthique qui pour moi est la plus importante, qui est celle de, je prononce un gros mot, de l'agentivité. Alors l'agentivité, c'est est-ce que en déléguant à l'IA, je ne perds pas quelque chose? D'accord. Et comprendre cet enjeu, on le voit par exemple avec si je délègue à mon GPS, est-ce que je ne perds pas ma capacité de m'orienter? Donc, c'est des choses qui ont été étudiées. Dans le cas de l'IA, on peut se retrouver là-dessus. C'est un enjeu éthique, hein. C'est pas un enjeu technique. C'est un enjeu de jusqu'où est-ce que nous, humains, on est prêts à déléguer et donc, finalement, à perdre du contrôle, à perdre des libertés. Parce que finalement, quand on sait faire des choses, on a des libertés. Quand on ne sait plus les faire, on perd des libertés. Donc là, il y a vraiment des enjeux qui sont importants.
Et il faut apprendre aussi à se servir de l'IA aussi. Ça fait partie aussi des compétences.
Ça va être des choses sur lesquelles l'éducation nationale fait monter en compétences les enseignants pour que les enseignants eux-mêmes puissent former les élèves, oui.
Donc rendez-vous lundi pour cette conférence. Ça va marquer la clôture et la fin de cette fête de la science ?
Oui, à 18h à l'université à Nouville.
Et il reste des places ?
C'est entrée libre, tout le monde peut venir. Mais d'ici là, vous pouvez dès ce soir venir à l'université également pour voir une conférence sur le parc naturel de la mer de Corail, puisqu'un ouvrage avait été préparé par les différents chercheurs du comité scientifique du parc. Ils vont présenter ce soir les éléments de l'ouvrage en question.
Et toutes les informations sont à retrouver, je suppose, sur Internet avec le programme ? Très
facilement. Tout le programme est facile à trouver sur fêtedelascience.fr/ Nouvelle-Calédonie.
Eh bien, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce midi dans ce journal pour nous parler de l'intelligence artificielle et plus largement de la fête de la science.
Merci beaucoup,
merci,
Nicolas.
Merci, Nicolas.
Une interview que vous pourrez retrouver évidemment dans le podcast de ce journal. Il est midi passé de 1 minute. On va marquer une courte pause publicitaire. On se retrouve juste après pour parler sport ce coup-ci. Faisons du sport un levier de transformation sociale. C'est en tout cas la conviction de la Fondation Roger Cadour qui organise une conférence ce soir au Centre culturel Tchibaou.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Dimanche 12 octobre, c'est la fête de la science au Parc provincial zoologique et forestier. Le thème, les intelligences comme celles de notre célèbre corbeau calédonien. Au programme, jeux de piste, expositions, nourrissage et visites guidées animées par des ornithologues passionnés et passionnants. Saurez-vous relever le défi de l'intelligence et remporter les nombreux lots mis en jeu ? Venez tenter votre chance dimanche 12 octobre au Parc provincial zoologique et forestier. L'entrée et les animations sont gratuites. Marché vivrier et restauration sur place.
La province sud ? Agir pour l'avenir.
La Chambre d'agriculture et de la pêche, en partenariat avec l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, vous invite au Grand Marché de Ducos, samedi 11 octobre de 7h à 14h. Au menu du jour, animation sportive, dégustation, concours de barbecue et bien sûr des produits locaux.
RRB, première radio d'information.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Faisons du sport un levier de transformation sociale, c'est le thème d'un colloque organisé ce soir au Centre culturel Tchibaou. La salle Sissia affiche d'ores et déjà complet pour ce premier événement de la Fondation Roger Cadour. Elle souhaite faire bouger les lignes et mettre le sport au cœur de la vie des Calédoniens pour favoriser la bonne hygiène de vie, bien sûr, la réussite scolaire ou encore le vivre ensemble. Laurent Caléja est le co-président de la Fondation et il était notre invité ce matin à 7h30.
On va essayer de faire bouger les lignes, notamment sur l'éducation, peut-être y mettre le sport l'après-midi comme le modèle anglo-saxon. Essayer de lutter contre le décrochage scolaire, de lutter contre les addictions, de remplacer les addictions par l'addiction du sport. On a tous des centaines d'exemples autour de nous, des gens qui ont fait du sport et des gens qui n'ont pas décroché de la société parce que le sport les a sortis de la galère. Donc on ne parle pas de très haut niveau, on ne parle pas de Jeux Olympiques, de Championnats du Monde, on parle de social et comment on va faire en sorte que les mômes, à la sortie de l'école, ils aient de quoi s'éclater et de ne pas traîner partout jusqu'à 19h, jusqu'au temps de repas par exemple.
Antoine Comboiré, l'un des parrains de cette conférence et de la Fondation, était aussi dans nos studios et il a évoqué ses motivations à faire partie de l'aventure.
Moi, je vis à l'extérieur, mais je pense Calédonie, je vis Calédonie. J'ai toute ma famille qui est là encore et c'est vrai que les retours que j'ai ne sont pas bons. Moi, je le fais déjà par rapport à nos jeunes d'ici.
Ouais.
Voilà, je vois beaucoup, là, je suis là depuis une semaine, là, qui sont donc dehors, qui traînent, qui n'ont pas de travail. Nous, on a un travail important. Essayer de faire donc, ce que certaines personnes nous ont fait à l'époque, là, qui nous ont servi donc, de modèle, et puis donc, de faire la même chose pour qu'aujourd'hui, on ait moins de décrochage scolaire, et puis des gamins qui puissent donc, avoir un travail, tout simplement. Quand on parle de projet pays, on parle de vivre ensemble. On parle donc de cohésion, on parle de solidarité, on parle de collectif, on parle d'équipe. Moi, ça me parle, moi. Quand on parle de sport, on parle de santé, on parle d'éducation, on parle d'égalité de chance. Ça me plaît. C'est vrai que quand Laurent est venu en me disant « Antoine, qu'est-ce que t'en penses ?» Faire des KDC dans quelque chose de beaucoup plus grand à l'échelle donc, du pays, à l'échelle de la région. Donc tout de suite, j'ai dit, ben, on y va. Mmh. Ce sont donc des valeurs qui me parlent, vraiment.
Et nous en avons profité pour demander si Antoine Comboiré allait reprendre du service après une opération des genoux. Il espère bien retrouver les pelouses.
J'ai passé 5 saisons, donc c'était magnifique, oui. Mais voilà, j'avais besoin de couper. Vraiment, oui. Parce que, encore une fois, me reposer, recharger les batteries et puis surtout me soigner. Voilà. Parce qu'après, l'idée, c'est dès que j'ai fait mes soins donc, de genoux, là, après je peux repartir au combat. Là. Mais j'ai envie de travailler, bien sûr, j'ai envie de m'amuser encore. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir pu faire d'une passion un métier, c'est exceptionnel. Là. Je mesure la chance que j'ai, c'est vraiment un privilégié. Quoi.
Et vous pourrez retrouver Antoine Comboiré ce soir pour la conférence de la Fondation Roger Cadour qui débutera à 18h au Centre Culturel Tibaou. Malheureusement, l'événement affiche complet. Antoine Comboiré qui, par ailleurs, a commenté dans cette interview ce matin à 7h30 la victoire des Calédoniens à Gibraltar. Premier match des Cagous sur le continent européen qui s'est soldé par une victoire 2-0. Peu après l'heure de jeu, Jean-Jacques Kachawa a ouvert le score et en toute fin de rencontre, à la 95e minute, Germain Awegene a doublé la mise. Victoire donc 2-0 pour les Cagous. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.